Pendant qu'on élargit un petit peu avec Richard Lévy notre connaissance de la maladie, vous savez qu'on parle souvent des maladies Alzheimer, et puis on ajoute maladie Alzheimer et apparentée, car il y a toute cette famille de maladies qui n'est pas strictement de la maladie d'Alzheimer, mais qui lui ressemble quand même beaucoup. Et c'est votre spécialité, ça. On vous écoute.
Très bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je pense qu'on va essayer d'avoir une discussion, donc essayer de faire quelque chose d'interactif, du moins au moins entre nous, plutôt sous la forme d'un entretien.
Et on peut être effectivement interrompu par des personnes. Donc je sais que dans la salle, il y a aussi des personnes qui sont touchées directement ou par leurs proches par une maladie de Lewy, par des dégénérescences qui ont des noms compliqués. Desquelles allez-nous vous parler aujourd'hui ?
Bien, je vais vous parler d'un certain nombre d'entre elles, 2-3, je pense. J'ai bien conscience que la maladie d'Alzheimer, par le nombre de patients malades, par le problème de santé publique que ça représente en conséquence, écrase finalement, d'une certaine façon, d'autres maladies neuroévolutives, dégénératives, qui sont là, qui existent, mais qui représentent, en termes de patients, beaucoup moins de patients. On peut considérer quand même que la maladie d'Alzheimer, c'est plus de 90% des patients qui sont concernés par ces maladies neuroévolutives qui entraînent une détérioration cognitive et comportementale. Donc évidemment, la place laissée aux autres pathologies, pourtant, pour certaines d'entre elles, au moins aussi dramatiques, est peut-être plus faible. Alors, je vais parler de 3 maladies. Je vous les cite pour commencer. Je vais parler de la maladie à corps de Lewy diffus. Lewy, ça s'écrit L-E-W-Y. C'est pas moi qui lui ai donné son nom. C'est un neuropathologiste d'il y a plus d'un siècle. La seconde maladie, c'est la dégénérescence lobaire frontotemporale, ou DFT. Et enfin, je parlerai d'une maladie émergente pour les neurologues, c'est-à-dire qu'elle est de découverte récente, qu'on appelle le LATE, L-A-T-E, c'est un acronyme, et qui va donner des troubles qui ressemblent pour beaucoup à ceux que l'on connaît dans la maladie d'Alzheimer à son début. Mais, enfin, pour une fois, la maladie va être nettement moins évolutive et finalement, quand les patients sont touchés par le LATE, c'est bien que ça soit une maladie sévère, c'est quand même moins sévère.
Ce sont des maladies qui démarrent dans les mêmes âges ?
Même un peu plus tard, souvent pour le LATE. Pour la dégénérescence lobaire frontotemporale, c'est au moins 10 ans avant le début de la maladie d'Alzheimer. Si on considère que l'âge de début habituel est autour de 65-70 ans pour la maladie d'Alzheimer, on va être plutôt autour de 55 ans pour la dégénérescence lobaire frontotemporale. Et la première dont je vais parler, la maladie à corps de Lewy diffus, on est au même âge que celle de la maladie d'Alzheimer.
Alors, au niveau des symptômes, est-ce qu'il y a des grandes différences ?
Alors, il y en a, mais si vous permettez, pour terminer ce préambule, je voudrais quand même dire une chose, parce que finalement, on parle de maladie apparentée, et ça pose la question de savoir ce qu'est une maladie, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie apparentée ? Pourquoi on les appelle maladies apparentées ? Le point, c'est qu'on pourrait définir ça en fonction de la différence de symptômes, mais il y a des maladies qui s'expriment avec des symptômes qui sont très proches de la maladie d'Alzheimer. Donc ce n'est pas nécessairement suffisant pour définir une maladie. Et puis il y a la révolution, et vous le comprenez par les traitements qui ont été décrits par Nicolas Villain dans la maladie d'Alzheimer, que si l'on veut traiter une maladie, il faut la connaître, il faut connaître sa cascade biologique, il faut connaître sa racine, et aller au plus proche de la racine. Par exemple, si vous toussez, vous pouvez tousser parce que vous avez une petite grippe, mais vous pouvez aussi tousser parce que vous avez une tuberculose, ou vous pouvez tousser parce que vous avez une maladie encore plus grave. Et dans ces 3 cas, les causes sont différentes. Vous ne traitez pas l'atout, c'est pas l'atout. L'atout, c'est le symptôme révélateur, mais ce qui vous intéresse, c'est quelle est la maladie à sa racine, quelle est sa cause, quelle est l'étincelle qui déclenche la maladie. Et dans le domaine des maladies neuroévolutives, il y a quand même une révolution, et ça c'est très important de le dire, c'est qu'on cherche à définir les maladies non pas en fonction des symptômes, parce qu'ils peuvent être communs à certaines maladies, mais plutôt en fonction de la nature des anomalies biologiques qui sont responsables des symptômes. Et donc, vous l'avez vu, pour la maladie d'Alzheimer, il y a une cascade biologique qui commence à être bien connue, même si l'étincelle qui allume la mèche n'est pas très claire, mais on sait que la protéine amyloïde, puis la protéine tau, vont jouer des rôles importants dans la perte de fonction des neurones, puis la perte des neurones eux-mêmes. Eh bien, les autres maladies apparentées ne reposent pas sur la même cascade biologique. Et c'est là le point très important. Si vous prenez, par exemple, la maladie à corps de Lévy diffus, elle se rapproche plutôt d'une anomalie d'une protéine qui est celle de la maladie de Parkinson, voyez. Et si vous prenez la dégénérescence lobaire frontotemporale, en réalité, ce n'est pas une maladie, c'est une entité faite de nombreuses maladies au niveau biologique qui sont définies par des protéines bien spécifiques. Donc, si vous voulez, je vais décrire ces maladies sur le plan clinique, évidemment, puisque c'est ce qu'on me demande de faire. Mais la réalité, c'est que ce qui nous intéresse, nous, en tant que médecins, au-delà des symptômes eux-mêmes, je parle de compréhension de la maladie, je ne parle pas de la prise en charge des patients, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller à la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents, parce que de la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents, on comprend pourquoi les symptômes émergent, et on ouvre des pistes thérapeutiques pour le futur, vous l'avez très bien vu, avec les anticorps monoclonaux pour la maladie d'Alzheimer. Alors, ce préambule étant fait, je peux commencer à décrire ces maladies. Alors, je ne vais pas faire un catalogue à la Prévert. Hein. Je vais essayer de les décrire de façon dynamique, essayer de faire comprendre en fait ce que sont ces maladies en fonction de leur évolution. Alors, si on prend la maladie à corps de Lévy diffus, finalement, les patients consultent un peu pour les mêmes raisons que lorsqu'ils consultent pour une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des troubles de la mémoire. Mais quand on y regarde un peu plus près, ce n'est pas exactement la même chose. Dans la maladie à corps de Lévy diffus, ce que l'on constate surtout, c'est que les patients ont des problèmes de concentration, ce qu'on appelle l'attention. Alors l'attention étant la porte d'entrée de toutes les fonctions intellectuelles, si vous n'êtes pas attentif, aucune fonction intellectuelle ne marche correctement. Évidemment, quand l'attention est perturbée, eh bien, le fonctionnement de l'ensemble des fonctions intellectuelles qui en dépendent, la mémoire, mais d'autres fonctions aussi, sont perturbées. C'est un peu la même idée que quand le sommeil vous prend, si vous voulez, quand le sommeil vous prend, eh bien, vous êtes à ce moment-là moins attentif au monde qui vous entoure, et donc vous n'êtes pas dans le même état mental. Eh bien, dans la maladie à corps de Lévy diffus, ce qui prédomine, c'est des troubles de l'attention. L'attention, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui éveille les fonctions intellectuelles et qui dépend de structures très profondes dans le cerveau, très élémentaires, très archaïques, qui existent chez tous les mammifères. Et ces structures élémentaires qui ouvrent ou qui ferment notre porte d'attention, eh bien, elles peuvent être touchées. Par exemple, quand on a un problème de vigilance, les gens qui ont un coma, eh bien, le coma, c'est le maximum de l'atteinte du système de vigilance, du système attentionnel. Et donc, les patients qui ont une maladie à corps de Lévy diffus ont une atteinte des mêmes structures que celles qui produisent un coma, mais à un niveau qui est, bien sûr, très progressif. La maladie évolue lentement, et puis à un niveau d'atteinte qui est moindre. Mais ça donne des troubles de même nature, si bien qu'on va avoir une vigilance, finalement, qui va fluctuer dans le temps. Des moments où les patients sont très bien, on a presque l'impression qu'ils ne sont pas malades, et puis à d'autres moments, souvent en fin de journée, quand la luminosité baisse, il va y avoir une sorte de déclin crépusculaire, et puis avec une remontée. Alors ces périodes vont durer quelques heures, ou bien quelques jours, quelques semaines, et ça déroute beaucoup les familles, parce qu'à un moment, on est bien, et puis on n'est pas bien. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis ça repart. Donc le premier trouble, c'est ce trouble attentionnel qui va entraîner, qui va affecter finalement l'ensemble des fonctions cognitives qui dépendent de l'attention, c'est-à-dire toutes les fonctions cognitives. Le deuxième trouble, qui est très différent de celui de la maladie d'Alzheimer, c'est une atteinte de la motricité. C'est-à-dire, et c'est là qu'on se rapproche de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que dans une maladie d'Alzheimer, du moins dans les premières années d'évolution, il n'y a pas de difficulté motrice particulière. Dans cette maladie, il y a un ralentissement moteur. Les gens sont lents, vont marcher lentement, ils vont être raides, ils vont être courbés. Ils vont marcher à petits pas, les mouvements vont être lents, il va peut-être y avoir un tremblement, le visage va être moins réactif. C'est ce qu'on appelle un état de Parkinson. Un état de Parkinson ne veut pas nécessairement dire qu'on a la maladie de Parkinson, mais c'est l'état qui est présent dans la maladie de Parkinson et qui est présent aussi dans cette maladie à corps de Lévy diffus. Alors, ça me permet de revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la maladie à corps de Lévy peut être considérée, jusqu'à une certaine limite, comme une forme particulière de maladie de Parkinson, parce que c'est la même anomalie biologique, la même protéine qui se dépose anormalement dans le cerveau. Bon, c'est un nom un peu barbare, ça s'appelle l'alpha-synucléine, mais cette anomalie de l'alpha-synucléine est commune à la maladie à corps de Lévy diffus et à la maladie de Parkinson. Alors pourquoi ça ne s'exprime pas de la même façon ? Eh bien, c'est simplement une question de topographie des anomalies. Dans la maladie de Parkinson, les lésions vont toucher les zones qui sont responsables de la motricité, et dans la maladie à corps de Lévy diffus, comme dans la maladie de Parkinson, les zones de la motricité sont touchées, mais les lésions s'étendent au-delà et vont s'étendre dans les régions de la vigilance et aussi des autres fonctions intellectuelles. Donc, premier symptôme, un trouble majeur de l'attention qui entraîne des fluctuations de performance intellectuelle. Deuxième symptôme, des troubles moteurs qui évoquent la maladie de Parkinson. Et le troisième grand type de symptômes, ce sont des troubles entre guillemets, psychiatrique, alors pas n'importe quoi. Le plus fréquent, ce sont des hallucinations, principalement des hallucinations visuelles, aussi quelquefois des hallucinations auditives, qui sont très différentes de celles qu'on verrait, par exemple, chez un malade psychiatrique qui aurait une schizophrénie, par exemple. Ce sont des hallucinations très particulières. Souvent, quand elles sont visuelles, ce sont des petits animaux, des petits personnages qui passent devant, ou l'impression d'avoir une ombre qui passe sur le côté, les patients tournent la tête, et puis finalement, l'ombre est tellement fugace que l'impression disparaît.
Alors, donc, une question, professeur Lévy, est-ce que tous ces symptômes et ces particularités sont bien connus des médecins, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des retards au diagnostic? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que ça, c'est pour la maladie de Lévy, pour la maladie frontotemporale, et on a également beaucoup de questions dans la foulée sur les traitements, et est-ce que ce sont les mêmes? Voilà, je voulais glisser.
Alors, sur la question du dépistage de ces maladies, je crois qu'en France, le dépistage de la maladie d'Alzheimer est fait avec un certain retard quand le MMS, c'est-à-dire l'outil déficience intellectuelle, a atteint un seuil qui est celui d'une atteinte relativement avancée de la maladie. Donc ça veut dire que déjà en France, d'une façon générale, il y a un petit retard de diagnostic par rapport à ce qu'on est capable de faire en termes de diagnostic. Évidemment, si un patient consulte dans un centre expert, les diagnostics sont faits parce que les médecins connaissent évidemment ces maladies. Ça fait partie de leur registre de réflexion. Quand un patient se présente avec un trouble cognitif particulier, il y a tout un ensemble de signaux qui vont s'allumer en fonction de ce que l'histoire qui est rapportée par le patient ou son entourage, on va arriver à activer ces différentes maladies qu'on a en tête. Mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les médecins. Donc ce sont en plus des maladies difficiles à diagnostiquer souvent, parce que j'en arrive au point suivant. Une fois qu'on a parlé de cette triade, trouble psychiatrique, trouble cognitif et trouble moteur, le diagnostic biologique, celui qui pourrait donner un 100% de certitude, n'existe pas dans ces maladies. Vous l'avez vu dans la maladie d'Alzheimer, grâce aux biomarqueurs réalisés par la ponction lombaire, on arrive à un degré de probabilité de maladie qui est assez élevé aujourd'hui. Ce qu'on appelle la valeur prédictive est autour de 85-90% grâce à ces prises. Ça veut dire qu'on a un haut niveau de probabilité d'obtenir un diagnostic de maladie d'Alzheimer grâce à une ponction lombaire. Dans le cas de ces autres maladies, de ces maladies apparentées, nous n'avons pas de marqueurs disponibles. Certains sont en développement, mais il n'y a pas de biomarqueurs qui permettent de faire un diagnostic. Donc, c'est complètement lié à la connaissance qu'ont les médecins de ces maladies et à la façon dont on enregistre les symptômes, la façon dont on examine les patients, les examens complémentaires qu'on va demander et qui vont former un faisceau confluent d'arguments. Et c'est ce faisceau confluent qui va nous permettre de poser un diagnostic. Et pour toutes ces maladies, ce sont des diagnostics de probabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du vivant d'une personne qu'on a bien mis le doigt sur la bonne maladie, mais avec un niveau de probabilité qui est très variable selon que le faisceau d'arguments est très confluent ou modérément confluent. S'il y a des atypies qui font qu'on n'a pas une confluence complète de tous les éléments du diagnostic, eh bien on va commencer à douter. Donc il y a tout un champ de maladies neuroévolutives dans lequel il y a quand même beaucoup d'hésitation à porter des diagnostics et l'expérience des médecins compte énormément évidemment pour arriver à un diagnostic.
Tout à l'heure, on avait une de nos invitées qui disait même quand on est diagnostiqué, c'est difficile pour la personne de l'accepter. Parfois, les personnes disent non, je ne suis pas malade. Mais alors, dans le cas des maladies apparentées, ça peut être encore plus compliqué pour l'entourage d'accompagner un patient.
Bon, enfin, si vous voulez, il y a des. Si on en est à la question de savoir si on est malade ou pas. Je crois que quand même, quand un médecin annonce un diagnostic, il doit lui-même y croire. Donc, je crois qu'il faut être très prudent quand on a un niveau de probabilité assez faible dans l'annonce de ce type de diagnostic. Mais une fois qu'on a annoncé un diagnostic, il faut considérer que c'est le diagnostic en question et en même temps rester vigilant pour la suite et faire marche arrière. Et il faut l'expliquer. Si jamais il y a de nouveaux éléments qui viennent à l'encontre de cette idée. Mais bon, je crois qu'il faut quand même aussi aider les personnes en ayant nous-mêmes une position assez ferme sur ce que l'on annonce.
L'autre question clé, c'est la question des traitements. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux de la maladie d'Alzheimer ? Est-ce qu'il existe des traitements spécifiques, au moins symptomatiques ?
Alors, donc, pour l'instant, je n'ai abordé que la maladie à corps de Lévy diffus. Alors, dans cette maladie, il y a les traitements symptomatiques. Un traitement symptomatique, c'est l'inverse des médicaments qui sont en cours de développement avec les anticorps monoclonaux qui ont pour but d'agir sur la biologie de la maladie et ralentir ou stopper les causes biologiques de la maladie, les traitements symptomatiques agissent que sur les symptômes. Je prends un exemple. Vous avez une grippe, si on avait un antiviral, on l'utiliserait, mais si on n'a pas d'antiviral, on utilise un antitussif si vous toussez. Vous n'agissez qu'un sur le symptôme, vous n'agissez pas sur la cause. Eh bien, dans la maladie à corps de Lévy diffus, on agit sur les symptômes et on n'agit pas sur la cause. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser les médicaments qui sont déremboursés dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et qui agissent aussi dans la maladie à corps de Lévy diffus. On va utiliser des anti-Parkinson qui agissent dans la maladie de Parkinson. On va utiliser aussi les médicaments contre les hallucinations.
Donc un éventail de traitements.
Un éventail de traitements, puis bien sûr, à part la prise en charge chimiothérapeutique, c'est-à-dire les médicaments eux-mêmes, il y a tout un ensemble de prises en charge qui sont un peu ceux de la maladie d'Alzheimer. La maladie à corps de Lévy diffus, finalement, dans la prise en charge médico-sociale, c'est la même chose que la prise en charge, que la maladie d'Alzheimer. C'est la même tranche d'âge, c'est les mêmes dispositifs médico-sociaux qui sont utilisés.
Vous allez nous dire rapidement les symptômes sur la dégénérescence temporale, mais également donc, cette question des traitements.
Et bien sûr, alors la deuxième maladie que je voulais aborder, c'était la dégénérescence lobaire frontotemporale. Alors c'est plus une entité qu'une maladie, parce que derrière, il y a plusieurs maladies, si on définit les maladies à l'échelle biologique. Mais les symptômes, finalement, la sortie comportementale est la même. Et c'est une maladie très étrange. Alors, il y a différentes formes de symptômes, mais la forme la plus fréquente de la maladie s'appelle la forme comportementale. Mais il y a aussi des formes qui vont toucher le langage. Je ne les aborderai pas, c'est un peu compliqué. Mais la forme principale, qui est la forme comportementale, qui est la forme, entre guillemets, la plus dramatique et la plus spectaculaire, c'est une modification en profondeur de la personnalité, du caractère et du comportement des individus. Pourquoi ? Parce que la maladie va toucher principalement la partie avant du cerveau, et notamment le lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est la structure qui est un peu notre pilote, finalement. C'est le chef d'orchestre de notre pensée. Et c'est la structure cérébrale qui va dire à toutes les autres fonctions cérébrales comment il faut intervenir à un moment donné, qui nous permet l'adaptation maximale. C'est celle qui nous donne notre libre arbitre. Et c'est celle qui nous permet d'interagir avec les autres, qui nous donne de l'empathie pour les autres. Et donc, quand cette structure de contrôle, notre tour de contrôle est malade, eh bien, notre couche de civilisation, finalement, s'amenuise et vont apparaître des comportements plus archaïques, ceux qui sont cachés, ceux que nous avions peut-être au départ dans la vie, des comportements, par exemple, d'adhérence à l'environnement, des comportements de succion, pour vous donner un exemple, mais aussi une libération des comportements impulsifs. Donc on va être très impulsif, On va perdre les règles sociales, la distance sociale, on va être familier, désinhibé au sens large du terme. Et puis en même temps, cette tour de contrôle, elle nous permet d'activer des comportements volontaires. Elle inhibe les comportements que l'on ne doit pas faire, mais elle nous active aussi dans nos comportements de la vie de tous les jours. Et quand cette activation n'existe pas, eh bien, on n'a plus de comportement, on est apathique, c'est-à-dire qu'on passe nos journées à ne rien faire. Donc il y a à la fois un état de désinhibition, un état d'apathie, et puis des problèmes de jugement, de raisonnement, d'interaction sociale. Et les interactions sociales, c'est notamment ce qui est le plus difficile à vivre pour l'entourage.
Pour les proches, bien
pour
sûr.
Pour les proches
et là
avec
aussi,
un.
Vous avez des traitements symptomatiques ou pas vraiment ?
Alors. Je vais être obligé d'aborder un point qui est très très important. Si vous voulez, tout à l'heure, quand je dis que les maladies étaient définies à l'échelle biologique principalement, il se trouve que dans la dégénérescence lobaire frontotemporale, on peut faire un diagnostic de 100% chez à peu près 20% des patients, parce que la maladie est génétique, c'est-à-dire qu'elle est due à une mutation dans à peu près 20 à 30% des patients. Donc chez 20 à 30% des patients, il y a une anomalie génétique, donc c'est beaucoup plus que pour la maladie d'Alzheimer, nettement plus, qui peut être recherchée car nous savons détecter ces mutations et donc on peut porter un diagnostic. Quand on porte un diagnostic d'une maladie génétique, alors on sait exactement quel est le gène et on commence à comprendre quel est le produit anormal que ce gène anormal va entraîner. Et donc il y a toute une recherche dans les formes génétiques sur est-ce qu'on peut agir sur le gène anormal ou est-ce qu'on peut agir sur le produit du gène anormal. Par produit, j'entends les anomalies biologiques. Et donc, il y a aujourd'hui des essais cliniques, comme il y en a dans la maladie d'Alzheimer, pour les formes génétiques, qui consistent à faire ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire à tenter de modifier soit le gène, soit le produit immédiat du gène. Donc, ça, c'est un espoir extrêmement fort pour la dégénérescence lobaire frontotemporale. C'est ces premiers essais qui sont encore dans le champ des essais thérapeutiques, hein, mais par exemple à la Pitié-Salpêtrière, nous avons plusieurs essais thérapeutiques dans le cadre des dégénérescences lobaires frontotemporales de forme génétique. Pour les autres patients, c'est-à-dire la majorité, ceux qui n'ont pas de forme génétique, le problème est que, comme je vous l'ai dit, la sortie comportementale ne vous indique pas quelle est la maladie biologique sous-jacente. Et donc, dans ce cas, comme nous n'avons pas de biomarqueur pour ces patients non génétiques, nous ne pouvons pas proposer de traitement qui agisse à la cause. Et malheureusement, il y a, en termes de symptômes, comment traiter un manque d'empathie.
Un grand besoin de recherche, c'est ce que j'entends.
Nous ne savons pas.
Le temps passe, mais voilà. Vous vouliez parler d'une troisième maladie.
Très brièvement, alors c'est peut-être pour diminuer, si vous voulez, cette charge anxieuse que je produis probablement en décrivant ces maladies.
J'avoue.
Il y a une troisième maladie qu'on appelle le LATE. Alors, c'est une maladie qui va toucher les personnes âgées, autour de 80 ans en général, qui va donner exactement les mêmes symptômes initiaux que ceux de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des troubles de la mémoire épisodique, c'est-à-dire l'incapacité à former de nouveaux souvenirs à partir de ce que l'on vit au quotidien, mais qui va rester localisé aux zones du cerveau qui empêchent l'enregistrement de nouveaux souvenirs, ce qu'on appelle les hippocampes. Donc c'est une maladie qui va toucher les hippocampes et qui ne va pas s'étendre au-delà, ou du moins pendant une période extrêmement longue, autant qu'on puisse le savoir avec le recul que l'on a sur les premières publications concernant cette pathologie, qui ne s'étend pas. Donc en d'autres termes, c'est comme un trouble de la mémoire, progressif, mais qui ne va pas s'étendre aux autres fonctions cognitives, et donc qui ne va pas entraîner le même niveau d'atteinte de l'autonomie. Et donc ça va entraîner des troubles de la mémoire, certes, qui peuvent s'aggraver dans le temps, mais avec des personnes qui restent relativement autonome. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient pour un trouble de la mémoire, il faut aussi envisager
cette pathologie.
Ouais.
Une question d'Elisabeth. Quand on a un parent atteint d'une maladie apparentée, est-ce qu'il faut faire des tests pour les enfants ?
Alors,
vous avez parlé d'un facteur génétique sur seconde maladie.
Bon, voilà comment ça se passe en deux mots. Imaginons qu'un patient vienne et qu'on fasse un diagnostic de dégénérescence lobaire frontotemporale. Dans ce cas, puisque entre 20 et 30% des patients sont porteurs d'une mutation, qui malheureusement est une mutation qu'on appelle autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on a tous deux copies d'un même gène, et quand on est porteur de cette mutation, c'est toujours la mutation qui l'emporte sur le gène sain, ce qui veut dire que la mutation, si on l'a, elle entraîne obligatoirement la maladie, toujours. Donc, ça veut donc dire que quand un patient a cette maladie, on va rechercher chez lui S'il est d'accord, évidemment, on va rechercher la mutation. Mais ça fait partie du diagnostic de rechercher la mutation. Et si on trouve une mutation, alors on informe le patient, son conjoint, son aidant, de l'existence de cette mutation. Évidemment, on a une discussion, puisqu'on ouvre une boîte de Pandore à ce moment-là. Si une personne a une mutation, c'est donc que peut-être elle l'a transmise à sa descendance. Et à ce moment-là, on ouvre la possibilité que les descendants aient ce qu'on appelle du conseil génétique. Ils viennent voir un neurogénéticien, c'est ce que l'on a dans notre unité, à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Et avec ce généticien, cette personne saine, qui n'est pas malade, mais qui peut-être est porteur d'une mutation, va faire une démarche qui va durer un certain temps, pendant lequel on va se déterminer s'il faut ou pas, si elle a besoin ou pas d'avoir cette information. Rien n'est obligatoire. On peut être porteur d'une anomalie et ne pas vouloir le savoir.
Chacun pourra faire son choix au moment où il le désire, parce que je suppose qu'on peut ne pas souhaiter un diagnostic à un moment de sa vie et puis quelques années plus tard.
Bien sûr. Mais ceux qui font cette recherche diagnostique seront suivis par nous dans le cadre d'une cohorte dite présymptomatique. Et s'il y avait des essais thérapeutiques, parce que les essais thérapeutiques se sont faits maintenant aussi quand on a une mutation en phase présymptomatique, eh bien, on pourrait le proposer.
Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur ces maladies apparentées Alzheimer.